vie, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
100, 2, 1.
L'animateur du retour qui travaille avec Vévé et Drédré.
C'est Doudou.
C'est Doudou.
Pouvez-vous croire dans la pyramide de la société que Karl Malenfant a réussi à se hisser plus haut que directeur adjoint du camping nudiste de Bécancour?
Hey, je m'attendais de voir un gars là, 6 à 5, les trapèzes ici, la hauteur des oreilles, quelqu'un qui était vraiment méchant d'apparence. Le gars, il a une tête de fleuriste.
Oui, puis il parle tout doucement comme ça.
Puis lentement.
Le gouvernement, c'est tellement un ramassis d'incapables qu'ils ont recruté ce gars-là deux fois pour flopper deux réseaux. Ouais. Hydro-Québec puis la Société de l'assurance automobile. Ouais. Check-y l'allure. Ouais. Écoute l'aplomb dans ce gars-là. C'est une mollasse.
Mais j'ai un très grand malaise avec ce que tu me dis.
Selon Donald Trump, il pourrait jouer au football le dimanche.
Ben imagine, Denis, un mollasse comme ça, fallait-tu que la PDG soit molle? Puis on l'a vu, là, Nathalie Tremblay, c'était pas plus solide.
Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Puis c'est terriblement cynique parce qu'on écoute ces gens-là, puis nous autres, on vote pas pour ces gens-là.
Non.
Et ces gens-là emmènent large. Puis c'est ces gens-là qui empêchent tout changement dans les machines quand le gouvernement change. Puis à un moment donné, ben, les ministres qui ont des projets, ils s'aplatissent, puis ils s'endorment, puis ils laissent ces mollusques-là continuer de mollusquer toute la fonction publique. Puis on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui avance. C'est eux autres, les boss.
Puis lui, il s'est sauvé. Là. Quand il a vu que le scandale, ça clique, ben, ça s'en venait, la commission, ça s'en venait, il a décidé de partir à retraite. Là.
Sauvons-nous les braves, les v'là, tabarnouche.
Il a rien perdu. Là.
Ça n'a pas de bon sens.
C'est juste que là, il perd un peu la face parce qu'il était à la commission galant.
Ce qui est la moindre des choses.
L'année prochaine, là, il ne te verra pas de chez eux. Lui, il va être en Floride, là, puis tout va bien aller.
Ah, lui, passer le bye-bye, c'est fini. Là. Je veux dire, sa vie recommence, puis tout est beau. Là.
C'est incroyable. Hey, Denis, je m'en veux. J'ai pas fait de meilleur culpa parce que je pense que du moment où je le disais, j'étais très honnête là, à 150%. Le premier mandat de Donald Trump, ça n'a pas si mal été que ça. Puis, il n'a pas fait juste du mal aux États-Unis pendant 4 ans. Là, il a quand même fait du bien. C'était pas un président qui aimait la guerre. Il aimait plus rapatrier les Américains en sol américain puis les garder les gars à maison, comme il disait. Le deuxième mandat, avant qu'il prenne le pouvoir, je me disais, ben ça peut pas être pire que le premier. Là. Il a quand même fait une bonne job de ce qu'on me dit là, dans le premier mandat. Actuellement, c'est une catastrophe. C'est juste hallucinant. Puis de voir ce qu'on fait avec Jimmy Kimmel, qu'on a retiré des ondes parce qu'il a, ben, il a fait une erreur factuelle, il a émis une opinion qui était basée sur des faussetés, il a fait mal paraître le président, de voir qu'on le retire des ondes, à long terme, je trouve que ça fait peur.
C'est le plus gros acte de censure de l'histoire nord-américaine. Rien de moins. Jimmy Kimmel n'est pas un lecteur de nouvelles.
C'est un clown.
Jimmy Kimmel n'est pas un président. Présentement, aux États-Unis, on a un président qui peut dire n'importe quel tabarnak de conneries sur n'importe quelle tribune, puis il se passe rien. Et on a un humoriste à 23 heures le soir qui passe un commentaire qui est loin d'être le commentaire le plus rough que j'ai vu ou entendu dans la dernière semaine. Et on fait suffisamment peur aux têtes de réseau et aux conglomérats de médias pour qu'un par un, on fasse tomber tout le monde. Donald Trump vise même ses prochaines cibles. Hey, moi, je veux pas me ramasser à défendre un taouin comme Jimmy Fallon, mais je pense que j'aurais pas le choix, là. Parce que ça a pas de bon sens, ce qui se passe présentement aux États-Unis, puis de voir l'apathie générale des Américains par rapport à ça, qui continue de s'ostiner comme si de rien n'était, ça devrait être là, là, que les sonnettes d'alarme résonnent, là, disent « Hey! » Là, on l'échappe. Là, c'est plus un président de démocratie qui est là, là. On suspend un animateur de talk show pour un crime de lèse-majesté. C'est le deuxième qui tombe. Comme par magie, pour la première fois de leur carrière.
C'est Colbert, le premier?
Colbert. Puis, je vous parle de d'autres choses qui est arrivé cette semaine. Pour la première fois de leur histoire, les gars de South Park n'ont pas été capables de publier leur épisode à temps. Les gars de South Park font en 6 jours ce que les Simpsons font en 8 mois, c'est-à-dire faire un épisode de dessin animé. Pourquoi ils font en 6 jours? Parce qu'ils dorment pas, parce qu'ils veulent que ce soit collé le plus possible à l'actualité, ils arrivent toujours à le faire. C'est la première fois que l'épisode n'est pas publié à temps. C'est-tu juste un hasard où les gars ont eu une commande de complètement changer le focus de l'actuelle saison de South Park où on attaque constamment le président américain avec beaucoup de méchanceté et de malhonnêteté? C'est ce qui fait la beauté de South Park. Mais là, là, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, les amis, c'est grave. Ça,
c'est très grave. Ça commence à être weird. On peut-tu écouter ce que Jimmy Kimmel a dit?
Oui.
Bon, allons-y.
New lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this.
En gros, ce qu'il dit, c'est que l'assassin de Charlie Kirk fait partie de MAGA.
Ben, c'est une tournure de phrase où on accuse le gouvernement de vouloir désespérément faire passer Charlie Kirk pour autre chose qu'un de leurs gangs. Mm-hmm. C'est une tournure de phrase qui n'est pas la plus habile. C'est quand même relativement accusateur, mais on s'entend-tu que c'est complètement inoffensif?
Tu sais quoi? Moi, plutôt, on dit une atrocité comme ça. Des fois, on en dit, mais on dit quelque chose comme ça. Le lendemain, nos boss vont dire « Hey, Yann, je pense que tu l'as échappé. Peux-tu t'excuser? » Ben oui, pas de problème. Je vais m'excuser. T'as raison. Regarde, ça n'a pas de sens. Là. Ça a été prouvé que ce gars-là, il faisait pas partie de ma gars. OK? Je vais m'excuser aux auditeurs. On va passer rapidement à d'autres choses. Parce qu'on accepte les erreurs, puis ça arrive. Puis il faut faire des excuses quand on est dans l'erreur. Dans son cas, à lui, il perd sa job parce qu'il a fait une erreur. Quel message que ça envoie aux autres? Puis je vais juste te faire un lien. Il y en a qui vont dire, « Hey Yann, c'est un parallèle boiteux, mais il y a une loi qui existe en Russie. Si tu fais mal paraître sur photo le président, tu peux avoir des problématiques. »
Oui.
Tu sais, ça se peut que ton entreprise soit fermée, ça se peut qu'on aille te rencontrer puis on te donne une lourde amende, ou ça se peut que par hasard, tu tombes dans des escaliers puis que ça soit la fin, OK? Mais tu n'as pas le droit de faire mal paraître Vladimir Poutine. Là, est-ce qu'on arrive avec quelque chose du genre aux États-Unis? Dès qu'on s'attaque à Donald Trump, dès qu'on s'attaque à MAGA, que ce soit en blague ou pas, tu risques de perdre ta job. Tu me parles de South Park, je n'étais même pas au courant, mais c'est de la satire. C'est des clowns.
C'est des amuseurs publics. À l'époque du Moyen Âge, le roi avait le fou du roi. Puis la job du fou du roi, c'était de rire du roi puis d'être passablement méchant. Puis l'idée, c'était de dire, ben tant que le gars qui rit le plus de moi est à côté de moi, les gens vont voir que je suis un bon régisseur puis que je suis capable de prendre tout avec un grain de sel et ainsi de suite. Évidemment, à un moment donné, il y a un roi qui a pogné les nerfs puis il a tué le fou du roi, mais ça, c'est une autre histoire. Dans le cas de Donald Trump, là, on joue un jeu très dangereux. On est en train de jouer avec les principes de base de la démocratie, puis moi, ça me fait freaker à quel point c'est facile de prendre ça pour de l'acquis puis de perdre le contrôle graduellement. Puis là, on est à vitesse grand V. On s'attaque à des humoristes, on s'attaque à des comédiens. On devrait jamais, jamais prendre ça au sérieux.
Des journalistes?
Ben, c'est ça. Là, les journalistes, ça, c'est une autre affaire parce que des poursuites provenant de la Maison-Blanche puis des menaces à des émissions comme 60 Minutes, à des réseaux comme CNN, on a bien beau être d'accord avec ce qu'ils disent ou pas, le point de vue éditorial qu'ils transmettent ou pas. Là, on attendait une mauvaise tournure de phrase, parce que pour moi, ça demeure ça. On voit pas ça nécessairement de la même façon. Moi, je pense que c'est une phrase qui est mal tournée, ce que Jimmy Kimmel a dit. Je le vois même pas comme une accusation, puis tout le monde le voit pas pareil, puis c'est bien correct. Mais il y a des gens qui ont dit pire que ça sur les tribunes nord-américaines dans la dernière semaine, puis qui n'ont pas eu de sanctions et qui, à mon humble avis, n'en méritent pas non plus. C'est l'espace public. On a le droit de débattre puis d'échanger. Puis même de dire que, tu sais, tu peux factuellement dire des choses erronées puis t'es remis à ta place par la suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs de fait. Puis à un moment donné, il y a des courriels qui rentrent puis qui me disent « Ouais, finalement, Roger Waters, il était pas dans Supertramp, il était dans Pink Floyd. Ah, ben je m'excuse. » Puis c'est des choses qui arrivent.
Exact.
Tu sais, ça aurait été très facile pour un gars habile comme Kimmel de revenir le lendemain puis de dire « Hey, ma tournure de phrase laissait sous-entendre que l'enquête était terminée sur l'assassinat de Charlie Kirk. » C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il y a un camp qui travaille très fort à nous le présenter d'une certaine façon, alors que le focus devrait pas être là présentement. Puis j'ai peut-être contribué, malgré moi, à l'escalade de tout ça, puis c'est pas mon rôle, puis c'est pas ce que je veux faire présentement dans une Amérique qui se déchire. Vois-tu, j'ai rien d'écrit, je suis pas comédien, puis je suis capable de te bâtir quelque chose quand même assez facilement avec très peu de talent d'improvisation. Jimmy Kimmel aurait pu s'en sortir. Ce qui arrive présentement, c'est que il y a énormément de pression sur les boss de Disney, les boss d'ABC, les boss des propriétaires de réseaux. Ça vient directement du FCC, qui est le CRTC des États-Unis, où Donald Trump a placé un de ses yes-men. Puis c'est la Maison-Blanche qui menace tous ces gens-là, puis qui leur dit, à la moindre virgule qui dépasse, vous me sacrez ça dehors. Tous les animateurs de talk show qui disent des méchancetés ou qui font de l'humour sur mon dos. Là, il y en a deux tombés. Il y a un épisode de South Park qu'on verra probablement jamais. Et comme par magie, à partir de la semaine prochaine, on va retourner à Tegrady Farms, puis on parlera plus de G.D. Vance, puis on parlera plus de Donald Trump, puis on va aller ailleurs. Moi, je suis très inquiet de ce qui se passe présentement. Puis ce qui me fait le plus chier là-dedans, là, c'est que des gens qui ne jurent que par la liberté d'expression depuis 20-25 ans applaudissent ce qui se passe présentement.
Faut être conséquent.
Des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens, on ne peut plus rien dire ». Mais là, soudainement, c'est des gens avec qui ils sont en désaccord au niveau des opinions, qui perdent leur job et qui sont suspendus, puis ils applaudissent comme des otaries. Vous êtes les pires idiots de la gang!
On dirait quelqu'un qui fait un parallèle avec un film V for Vendetta.
Oui, oui. Mon Dieu.
Ça ressemble
Faut pas se rendre là. Faut pas se rendre là.
Mais tu sais quoi? Je veux dire, Trump fait ces affaires-là, puis effectivement, mais on l'a déjà vécu à Québec à plus petite échelle. Là. Quelqu'un qui appelait dans les stations de radio, qui était maire de la ville, pour faire perdre des jobs à des animateurs, que ce soit au 93 ou au 98.1.
Puis à partir de ce moment-là, ben c'est au propriétaire de médias de dire ben no fucking way, c'est pas toi qui vas nettoyer ma cour, c'est moi qui vais le faire si je juge que c'est essentiel ou pas.
Mais à quel point tu te sens tellement puissant que tu te dis hey, je vais appeler les propriétaires puis je vais dire soit tu le mets dehors ou soit je te coupe les subventions. C'est fou.
La journée où Charlie Kirk a été assassiné, Donald Trump a dit des choses bien pires que ce que Jimmy Kimmel a pu sous-entendre.
En parlant de la gauche radicale.
Ben oui, la journée même.
Oui.
Le gars qui aurait dû prendre du recul. C'est le président des États-Unis. Un humoriste peut s'égarer. Un animateur de talk show peut dire des conneries, à mon humble avis. C'est pas des gens importants dans la vie.
Les gars de sport disent tout le temps plein de conneries, puis il faut que je les ramène à l'ordre.
Kirby Dak au centre du deuxième trio.
Il y a rien de pire qu'un gars de sport qui se prend au sérieux, Max. Retiens-la, celle-là. Mais non, c'est ça que je trouve inquiétant. Puis les gens qui font des talk shows, de la radio, des médias, ça, c'est la soupape pour bien du monde qui permet de sortir de la steam. Tu sais, il y en a qui vont s'entraîner, il y en a qui vont se défouler, il y en a qui vont courir un peu. Puis il y en a qui écoutent la radio ou des talk shows ou la TV. Ils rient un peu, ils rient gras, ils rient une joke de mauvais goût. Ils entendent du bitchage sur le président, puis ça leur fait du bien. Puis ils dorment, puis ça leur a enlevé un petit peu de stress, puis un petit peu de merde, un peu d'agressivité. C'est une courroie qui est essentielle. Quand on commence à jouer là, on joue à la même place que la Corée du Nord, on joue à la même place que la Russie. On veut-tu vraiment faire partie de ce gang-là? Hey, c'est dégueulasse.
Tu me parlais, Denis, de South Park, là, qui a dû retarder la diffusion de son nouvel épisode. Le 4 septembre dernier, il était annoncé comme quoi, dans South Park, il y avait Donald Trump qui faisait un enfant à Satan. Y a-t-il un call qui s'est fait?
Depuis le début de la nouvelle saison de South Park, écoute, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait avec Donald Trump. Ils ont même utilisé l'intelligence artificielle pour faire une fausse pub. Comme si South Park, on leur avait demandé de faire la promotion du président américain. Puis tu vois Donald Trump, c'est fait par l'intelligence artificielle, puis on n'est plus d'un petit bonhomme, là. On est vraiment dans la réalité. Tu vois Donald Trump courir tout nu dans le désert avec ses grosses bobettes lousses, puis là, on dit « Donald Trump, c'est le gars qui va courir tout nu dans le désert pour toi, puis qui n'arrêtera jamais. » Puis là, Donald Trump a bien chaud, puis il prend ses grosses bobettes, puis il les enlève, et c'est là qu'on voit son micro-pénis. Puis tout ça est fait dans l'intelligence artificielle. Puis là, je me disais « Écoute, les gars font exprès. » Puis ils disent publiquement « OK, on jette les gants, puis on va voir qui va toffer le plus longtemps. » Les gars de South Park venaient de signer un contrat mirobolant de je sais plus combien de dizaines de millions de dollars par épisode. Fait qu'ils se sont dit, là, les réseaux vont nous backer, puis on est prêt à se battre directement contre Donald Trump. Écoute, je veux pas faire partie des complotistes et des paranoïaques, mais là, on a deux têtes d'animation qui sont tombées en l'espace de quelques semaines. On a les gars de South Park qui, pour la première fois de leur vie, il y a deux scénarios qui sont sur la table présentement. Le premier, c'est il y a eu une intervention de la Maison-Blanche pour qu'un épisode soit pas diffusé. Et le deuxième, c'est peut-être les gars qui se sont dit aussi « Hey, là, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans la gorge ». Je pense que tout le monde a besoin d'air un peu, puis on va tout scraper ce qu'on a fait, puis on va aller ailleurs. C'est possible aussi, mais dans les circonstances actuelles, là, on se demande ça va arrêter où. Là, t'as un lecteur de nouvelles qui va faire un commentaire pendant un bulletin de nouvelles, puis le lendemain, il va être remplacé par quelqu'un d'autre.
Mais ça s'est pas fait comme ça au Québec, mais il y avait quelque chose d'incroyable qui était arrivé pendant la pandémie. François Legault avait lu un journaliste, comment il s'appelle, le gars qui fait les chroniques économiques à Radio-Canada?
Fillion?
Ouais,
Gérald Fillion.
Gérald Fillion avait écrit un papier.
Les Fillions se mettent toujours dans la marge.
Il avait écrit un papier, puis il avait fait une critique. Puis François Legault, il avait écrit, lui, personnellement, le soir, pour lui dire qu'il n'était pas content de ce qu'il avait fait pendant le jour. Je veux dire, là, c'est une intervention directe du big boss en haut.
Ah, ça n'a pas de sens, ça.
Qui contacte un journaliste ou un analyste, là, dans son cas à lui, en lui disant, « Hey, ce que tu as fait aujourd'hui, je suis pas d'accord. » T'imagines la pression que ces gars-là doivent vivre?
Clairement. Steve nous dit, il faut juste être patient, les Américains vont se lever. Je comprends, puis il y a des élections de mi-mandat qui arrivent dans un an, puis
on dirait pas.
On pense. Mais la problématique, c'est que Trump est en train de truquer la carte électorale. Il l'a fait au Texas pour commencer, puis il va le faire dans d'autres États. Donc, est-ce que les élections de mi-mandat vont vraiment donner la volée qu'il est censé manger? À présent, j'ai des doutes.
Puis on a tellement creusé le fossé dans l'Amérique profonde que il pourrait possiblement gagner un troisième mandat s'il avait le droit d'en faire un troisième. Oui. Puis n'oubliez pas que Donald Trump a fait allusion à ça à quelques reprises déjà. Je ne sais pas comment l'Amérique va se remonter de ça. Puis je pense que le Canada, ça va peut-être bien faire les sanctions puis les tarifs finalement. Prenons nos distances tranquillement. Mm-hmm. Là. Prenons un gros recul parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais c'est responsable de dire « Créons des partenariats avec d'autres nations, avec des gens qui, présentement, sont un petit peu plus évolués au niveau de leurs élites puis de leurs décideurs. » Puis si ça tombe au sud du Canada, ben tabarnouche, on va avoir des partnerships autant économiques qu'au niveau du reste.
Partnerships moral aussi. Je pense que c'est important pour le Canada de les créer, ceux-là.
Ouais. Hey Denis, encore une histoire dans le soleil d'une jeune femme qui s'est fait piquer avec une seringue dans un bar. Ça s'est passé au Midnight Blue dans le quartier Saint-Roch. On me dit qu'on a un collègue de travail qui a une hypothèque au Midnight Blue. D'ailleurs, ça a l'air qu'il laisse sa carte de crédit là, en prévision d'y aller chaque semaine. Fait qu'il dit tout le temps, mets ça sur mon bill. On parle d'une étudiante de 23 ans, Elisabeth, qui a été aux alentours de minuit là, le 11 août au bar, le Midnight Blue. Elle était sur la piste de danse. Puis quand elle a quitté la piste de danse, elle a senti quelque chose qui piquait le bras.
Ouais.
Puis elle a commencé à regarder. Elle a dit, écoute, ça, c'est une piqûre. Elle était à l'hôpital. On lui a donné un protocole de produits pour lutter contre le VIH. Si t'es pas assuré, c'est 1500$ ce protocole-là. Si t'es assuré, c'est 300$.
C'est quand même cher. Hein?
Puis là, elle vit aujourd'hui avec une détresse psychologique de savoir si elle va avoir le sida ou pas. Elle s'explique mal pourquoi les gens pique d'autres personnes dans les bars et
on est quelques-uns.
Et on le comprend. Là. C'est qu'est-ce qui motive quelqu'un à piquer les gens d'un bar? Je trouve ça hallucinant. Et tu sais, ça se fait partout. Là. On a entendu des histoires au Saguenay. On a entendu des histoires à Québec, sur les plaines d'Abraham.
On parle à un collègue de Montréal cet après-midi dans le retour qui a été piqué. Lui aussi en début de semaine, s'est ramassé à l'hôpital.
Mais tu fais quoi? Parce que là, nos enfants, là, ils vieillissent. Là.
Oui.
Puis là, tu t'en vas prendre une bière avec eux autres qui ont 18 ans, c'est leur fête. Puis tu vois un gars qui prend une seringue puis qui donne un coup avec l'aiguille à ton enfant. Tu fais quoi?
Oh man, je veux même pas me poser la question.
Parce que le jour où le gars ou la fille va se faire pogner à piquer, ça va prendre quoi? 10 minutes, 15 minutes avant que les policiers arrivent? Il y a des gens qui vont en profiter.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est le crime parfait, puis c'est ça qui est enrageant. C'est des gens qui veulent sciemment faire du mal pour le plaisir de faire du mal, puis de ne pas porter après ça la culpabilité qui va avec. Puis, tu sais, quand il y avait du GHB qui se mettait dans les verres, il y a comme un paquet d'affaires qui sont arrivées, les couverts, la prévention, tu sais, tenez-vous en groupe, puis tout ça. Il y a comme un paquet de trucs, puis un paquet d'affaires. Tu peux aller commander avec un code au bar si tu sens qu'il arrive quelque chose, si tu sens que tu es en danger, puis ainsi de suite. Il y a comme plein de codes de conduite qui se sont levés pour faire en sorte que les gens se sentent un peu plus en sécurité. Mais tu te bats comment, là, dans des cas comme ceux-là, contre un gars qui, au hasard, va piquer du monde au gré du vent dans un bar rempli? Est-ce que c'est puis c'est plate de dire ça, mais est-ce que ça va être de fouiller les gens davantage quand on rentre dans ces établissements-là?
Ça a l'air qu'ils le font.
Ouais, au midnight, puis c'est pas la grosse fouille, mais tu sais, t'as des agents à l'entrée, puis là, tu te fais écarter, puis après ça, ben t'avances, puis là, tu te fais taponner un peu.
En même temps, une seringue,
ben,
je veux dire, c'est pas...
C'est ça, l'affaire.
C'est pas un bazooka dans un pack-sac, là.
Ben, c'est ça, tu caches ça sur ton côté de jeans, je veux dire...
C'est là que tu ferais ça, toi?
Ben, c'est de même, je le verrais. Si j'avais de quoi rentrer ou j'ai pas le droit de rentrer...
Moi, là. Je sais pas, j'ai une seringue sur moi, là, ça m'inquiéterait. Là. Tu peux pas te mettre ça dans le trou de pète, là. Je comprends pas comment les gars ou les filles réussissent à rentrer ça dans les bars s'il y a une fouille.
Je me ferais mal avec une seringue dans mes poches, moi.
Moi aussi.
Ouais, je m'auto-piquerais probablement en m'assoyant.
Tu sais, là, on parle de VIH, on parle d'hépatite C, on parle d'hépatite B. C'est une catastrophe annoncée, mais j'ai hâte de voir si la santé publique va embarquer là-dedans.
Pas le choix.
Peut-être que la ville, les policiers de la ville de Québec vont avoir une escouade qui vont vérifier si tout ça, c'est bel et bien vrai. On a eu une potentielle victime qui est venue en studio il y a de ça quelques jours. Finalement, à la fin, elle ne savait pas trop si c'était un drink qu'elle avait pris ou ça s'était fait piquer. Mais dans le cas de la jeune femme qui est dans le soleil, elle, c'est bien clair. Elle a senti la seringue rentrer dans son bras.
Ah oui, puis je veux dire, il y a eu, de ce que je comprends, la démarcation, ça a fait de l'enflure autour. Tu sais, dans son cas, il n'y a aucun doute qu'elle a été piquée. Puis oui, tu vas avoir des histoires, tu sais... Là, on en parle énormément. Fait qu'une fois de temps en temps, tu vas avoir une personne qui l'a échappé un soir, puis le lendemain, elle va dire « Ouais, je me suis probablement fait piquer. » Comme quelqu'un qui l'échappe sur Twitter, puis le lendemain, « Hey gang, mon compte a été piraté. Là, c'est pas après deux bouteilles de vin que je suis allé sur les réseaux sociaux. » Là, tu sais. Donc, mais en même temps, ça n'enlève pas la légitimité de fond du problème présentement qui prend de plus en plus d'ampleur, puis ça n'enlève pas la crédibilité non plus à la plupart des gens qui racontent avec fait à l'appui qu'est-ce qui arrive présentement. Puis j'ai hâte de parler à notre collègue de Montréal cet après-midi, parce qu'on parle beaucoup de filles qui ont été piquées jusqu'à maintenant. Lui, c'est un gars. Il s'est présenté à un spectacle, puis il s'est ramassé à l'hôpital. C'est pas comme ça qu'il prévoyait passer sa veillée, là. Donc,
Mais tu dois être en détresse psychologique quand ça t'arrive, là, parce que tu peux rien faire si ce n'est qu'attendre tes résultats, à savoir si tu as contracté une maladie. Mais tu sais, ça me fait penser, tu l'as vu toi aussi, tu étais à la radio dans ce temps-là, tu sais, les gens, il y avait une légende qui disait qu'il y avait des filles qui se faisaient intoxiquer dans leur verre. Puis là, on parlait avec les policiers disaient ah, c'est des filles qui ont trop bu, là, puis ils veulent pas admettre qu'ils ont trompé leur chum, fait qu'ils disent qu'ils ont été intoxiqués pour finalement comprendre qu'il y avait vraiment des gens qui se faisaient intoxiquer. Puis là, les policiers ont commencé à se réveiller. Il y a eu des trucs qui ont été faits, là, des petites languettes que tu mets dans le verre pour savoir si ton verre, il y a juste de l'alcool dedans ou s'il y a du GHB. T'en as-tu vu tout d'un bord, ces petites fameuses, ces petites languettes-là?
Ouais, ben j'en ai jamais fait l'utilisation, mais il y a des bars, en effet, qui l'offrent encore.
Des couverts à verre aussi?
Des couverts à verre,
Les couverts, je l'ai vu plus souvent. Ouais. Les couverts, je pense, c'est rendu plus répandu.
Mais les seringues, tu peux rien contre ça.
Puis juste les filles, maintenant, moi, j'en vois beaucoup qui ont tout le temps la main au-dessus de leur récipient.
De leur verre,
que ce soit une bouteille, que ce soit un verre, c'est rendu un réflexe commun. Mais comment on se pade contre une piqûre de seringue? On n'ira pas toutes veiller en armure médiévale.
Le roi Arthur.
on peut pas se rendre là. Puis en même temps, il y a peut-être un moyen technologique de scanner les gens à l'entrée. Je sais pas. C'est inquiétant, ce phénomène-là. Puis c'est inquiétant de voir toute la méchanceté et la préméditation gratuite de quelqu'un qui se promène avec une seringue et qui dit « Moi, au hasard, je vais piquer du monde juste pour rire. » Il n'y a rien de drôle là-dedans.
Amy dit « Est-ce que c'est enrageant que vous êtes en train de parler, le GHB? Tu peux acheter des seringues sur Amazon et dans plein de magasins sans qu'on puisse contrôler la vente. On en distribue pour nos toxicomanes et ça gratuitement. » Tu vois, je ne savais même pas.
Ben, c'est parce que la seringue, c'est facile de s'en procurer une. Les drogues, c'est facile de s'en procurer aussi. Mais moi, c'est l'humain là-dedans. Là.
C'est l'humain qui décide sciemment de semer la terreur auprès de la gente féminine.
Moi, tous les soirs, je mange avec une fourchette et un couteau. Je penserais jamais piquer quelqu'un, quoique j'ai passé proche de le faire à Max l'autre jour. Là. Mais non, mais tu sais, je veux dire...
En effet.
Tu sais, on a plein de produits en dessous de l'évier. J'en ai pas mangé des Tide Pods, moi. Non. J'en ai chez nous pourtant, là. Puis c'est vrai qu'ils ont de l'air bon. Je veux dire, c'est des belles couleurs, puis tout, mais ça sert pas à ça, puis c'est marqué poison. C'est fait ça. Que, puis j'en ferai pas manger à quelqu'un d'autre pour faire une bonne blague non plus.
Ça ne mettra pas dans son verre.
Le problème, c'est l'humain présentement.
Clairement.
C'est l'humain qui est rendu désaxé. Puis
parce qu'on veut pas vivre dans un monde, Denis, où nos femmes et nos filles, quand ils vont dans des restaurants ou dans des bars, vivent avec la crainte de se faire empoisonner.
Non, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens. Faut parler à nos gars. Parler à nos gars.
Puis les policiers, il va falloir qu'ils s'en mêlent aussi. Parce que visiblement, c'est pas encore rendu à l'Assemblée nationale. J'ai pas entendu des gens de la Ville de Québec parler de ça. J'ai pas entendu le chef de police de la Ville de Québec sortir, même si on lui a donné une augmentation de salaire.
C'est rendu majeur. Là.
On a un nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière.
C'est vrai.
Ça pourrait être un bon dossier pour lui pour commencer.
8h16, Denis, on t'écoute à 14h.
Hey, merci les amis, à tantôt.
Salut. Bye bye. Boulevard 102.1.